Et on poursuit, mesdames et messieurs, on poursuit cette fois avec nul autre que M. Éric Lantier. Éric, salut mon ami.
Hello!
Comment vas-tu?
Très, très, très bien. Avec le soleil aujourd'hui, encore une fois, eh bien, on va le prendre parce que ce qui s'en vient, ce ne sera pas jojo, mais comme on dit, un jour à la fois.
Là, je regarde ton article, mon ami, puis ça me fait tellement sourire, dans le sens que, à un moment donné, tu m'es arrivé avec un article où tu disais que la forme physique rendait plus heureux que les sous. Et là, tu risques d'avoir un peu la même réaction avec ton article d'aujourd'hui.
Ben écoute, j'aime ça amener des éléments positifs, parce que tu sais, l'actualité est remplie de mauvaises nouvelles, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des choses qui se font. Mais dans le sujet d'aujourd'hui, il y a des moins bonnes puis il y a des bonnes nouvelles. Il y a des moins bonnes nouvelles parce que la semaine dernière, en tout cas du 7 au 13 avril, c'était la semaine de l'action bénévole. Et au Canada, on retrouve 12,7 millions de bénévoles. Mais ce qui arrive, c'est que c'est de plus en plus difficile à recruter des bénévoles, spécialement au Québec. Au Québec, on est ceux qui s'engagent le moins dans tout le Canada.
On est plus paresseux.
Ouais, ben pas qu'on est paresseux, c'est que je pense que une partie de cela, ça vient de ce que l'État fait notre travail. L'État se charge de donner des services, puis ça nous déresponsabilise en partie. Ouais. L'autre aspect, c'est que les boomers,
les
là,
boomers.
Eux autres qui ont du temps à donner, ben vont aller travailler 5, 10, 15 heures par semaine pour avoir un petit surplus à leur revenu de retraite. Et pendant ce temps-là, ben ils sont moins disponibles puis ils ont moins d'énergie pour faire du bénévolat. Alors ça joue aussi là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que un, il y a des bienfaits à faire du bénévolat.
C'est quoi? Apporte-moi les points, les bienfaits des gens qui vont faire du bénévolat. Ça leur apporte quoi?
Ben un sentiment d'apaisement et de bien-être. Ça va stabiliser l'humeur. Il y a une réduction des risques de dépression et d'anxiété, une meilleure capacité à gérer le stress, une amélioration de la qualité du sommeil, une réduction du risque de maladie cardiaque, et écoute bien celle-là, là. Ça, là, c'est la cerise sur le sundae. Diminution de la mortalité. Et j'ai consulté... Si tu fais du bénévolat de façon altruiste, si ton bénévolat est dans le but de faire du bien et pas seulement de recevoir, tu veux donner, bien, ce que ça produit, il y a des recherches. Écoute, il y a plusieurs universités. Il y a l'Université du Michigan, l'Université du Wisconsin. Il y a même une université en Angleterre, l'Université d'Exeter, qui sont penchés là-dessus, qui ont fait des recherches. Écoute, ça fait au-dessus de 50 ans qu'on étudie le phénomène. Et la conclusion, c'est la même. Quelqu'un qui fait du bénévolat altruiste va vivre plus longtemps que quelqu'un qui en fait pas.
Mais c'est logique d'un côté parce que ils disent tellement que le stress va causer des problèmes de santé à l'humain. C'est pas bon d'être stressé. Et probablement que, faire du bénévolat comme ça, altruisme, va faire en sorte qu'on va diminuer notre taux de stress, probablement.
Ben, c'est parce que pendant qu'on s'occupe des problèmes des autres, parce que j'en fais beaucoup de bénévolat auprès
on
des gens.
On oublie les nôtres.
Ouais, c'est ça, exactement. Puis on se rend compte qu'il y a des gens qui ont des problèmes beaucoup plus sérieux que les nôtres, d'une part. Quand on s'intéresse aux autres, on s'oublie un peu soi-même. Mais le bien que ça nous redonne, c'est très valorisant. Il y a rien de plus gratifiant que de sentir qu'on a fait du bien à quelqu'un. Puis, il y a un psychologue du nom de Larry Crabb qui disait qu'il y a deux éléments fondamentaux que l'être humain recherche. L'être humain recherche d'abord et avant tout d'avoir un sens à sa vie et ensuite d'avoir un impact sur d'autres personnes. En d'autres mots, quand on a un impact sur d'autres personnes, ça nous donne une valorisation puis ça nous donne une raison d'être. Je suis pas là juste pour moi-même. J'ai du sens pour ma vie, mais mon sens se reflète sur d'autres personnes. Et c'est pour ça que de se donner, et c'est pas obligé d'être 10, 15, 20 heures par semaine, ça peut être une heure par semaine. Ça peut être aider des gens, par exemple, à aider des élèves à traverser la rue, aider des jeunes brigadiers ou brigadières, là, par exemple, sur l'heure du midi, puis d'aller les aider, puis de prendre l'air, puis d'être là avec les gens, de saluer les gens, de rencontrer des parents, des professeurs, ça fait du bien.
Ouais, mais je crois aussi, comme exemple, un lieu de bénévolat qui peut être très enrichissant, comme les hôpitaux, mm-hmm. d'aller aider des gens qui passent des épreuves dures, aller les voir, discuter avec eux, essayer de les aider de quelque façon que ce soit.
Ça peut
être une forme de bénévolat qui est très appréciée.
Absolument, parce que les gens, ce qu'ils ont besoin fondamentalement, spécialement ceux qui souffrent, c'est de se sentir écoutés, et de sentir une présence.
Ouais.
Et souvent, quand on n'a pas de mots, parce que quand la personne est alitée, est à l'hôpital, il n'y en a pas de solution, parce que s'il y en avait une, il serait plus là. Mais de sentir qu'il y a quelqu'un qui est concerné par cette personne-là, de sentir qu'il dit, gars, je t'offre ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie, mon temps.
Exact.
Et là, ça donne une valeur à cette personne-là. Elle dit, ben, hey, j'ai la visite de quelqu'un qui va prendre son temps, qui va prendre soit l'autobus, qui va stationner sa voiture, qui va marcher, qui va se déplacer. Donc, moi, ça me donne une valeur si moi, je suis souffrant. Et c'est ça qui fait que c'est gratifiant parce qu'on se dit, j'ai contribué au bien-être d'une autre personne. Et c'est ça qui fait la différence. Et moi, je suis content de lire ça.
J'allais souvent à l'époque... il y a peut-être 15-20 ans, on allait chanter dans des hôpitaux pour aider les gens malades. On offrait des spectacles dans des salles pour les gens malades. Et même dans un centre palliatif, entre autres, que j'ai en mémoire, là, où les gens qui sont comme sur leurs derniers jours avaient tellement apprécié tellement ce changement-là de pour un instant on les sortait de leur maladie, pensait pas à ça, tu sais.
Ah, tout à fait.
Il y a beaucoup de formes, hein, de bénévolat, puis t'as bien raison, Éric, c'est quelque chose qui quand tu te couches le soir, tu dois avoir le sentiment du devoir accompli. Et c'est vrai que ton sommeil doit être plus profond et meilleur à ce moment-là.
Ouais, tout à fait. Parce que une des solutions pour régler nos problèmes, c'est de se détourner de nous-mêmes, hein, puis d'avoir un recul. Puis quand on voit, puis on vit, puis on est conscient des besoins des autres, bien ça met nos problèmes en perspective. C'est pas qu'ils disparaissent, parce qu'ils disparaîtront pas nos problèmes, mais ça les met en perspective. Et ça nous montre que on n'est pas tout seul à vivre des situations difficiles. Puis quand on est en situation d'aide, eh bien, souvent, là, on a quelque chose de plus à donner aux autres à ce moment-là. Et ça nous montre que, ben, on est en vie, on est en santé, on est disponible pour les autres, on contribue au bien-être des autres. Et ça démontre que on est utile. Et c'est ce sens-là de se sentir utile pour quelqu'un, pour un être humain, qui fait toute la différence. Tu sais que on a parlé beaucoup, hein, puis tu l'as même mentionné sur ta page Facebook, là, cette jeune fille de 23 ans, cette jeune infirmière qui s'est enlevée la vie récemment. Mais sais-tu quoi? Un des éléments fondamentaux qui fait que des gens vont s'enlever la vie, là, il y a un dénominateur commun chez la plupart, pas chez tous, mais chez la plupart, c'est qu'ils n'ont pas trouvé un confident qui les comprenait, qui était là pour comprendre profondément ce que ces gens-là vivaient avant de s'enlever la vie. Et ça nous montre que d'être présent et être à l'écoute, ce sont des valeurs qui sont indispensables pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de gens.
Mais tu vois, tu parles, on parle de la jeune demoiselle qui s'est suicidée et quand on lit son message, je ne sais pas si ça avait été possible d'avoir de lui porter de l'aide à cette demoiselle-là. Elle disait clairement que était comme genre pas capable de vivre.
Mm-hmm.
C'est dans sa lettre.
Oui.
Comment tu peux aider quelqu'un qui est allergique à la vie, disons-le comme ça?
Ah ben écoute, moi je peux t'en parler, Jocelyn, parce que ma première épouse là, elle s'est enlevée la vie pour cette raison-là.
Qui?
Ma première épouse, ma première femme.
Oh.
En 2013.
Ben, c'est drôle, moi, avec.
Ah oui?
Oui, la première femme de ma vie, elle s'est suicidée après notre séparation, mais bon, bref. J'ai vécu le suicide aussi. Mais...
Oui. Puis je peux te dire que j'ai connu pendant plus d'une vingtaine d'années son mal de vivre. Et c'est vrai que c'est lourd à porter. C'est vraiment lourd à porter. Mais je pense qu'on est dans une société où tout est trop rapide, puis on n'a pas assez de temps pour s'arrêter. Puis, tu sais, auparavant, là, je me souviens, moi, mes grands-parents viennent d'une région rurale, le petit village de La Conception. Et,
ben oui, des Laurentides.
Exactement. Puis, il y a dans ces villages-là une communauté dans les années 60-70 qui s'était formée, que moi j'ai connu et que tout le monde se connaissait. Quand il y avait quelqu'un qui était dans la misère, il y avait de l'entraide et tout le monde, si une maison passait au feu, ben tout le monde allait donner un coup de main. C'était le devoir du village. Puis il y avait ce sentiment-là de ce qu'on se sentait entouré puis appuyé. Puis bon, il y a des côtés.
Le village formait une famille, en fait.
Exactement.
Une famille.
Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Dans les années 2000-2020, c'est ça qui nous manque d'avoir comme pour ces gens-là particulièrement, de sentir continuellement entouré. Et je me souviens, ma première épouse, quand elle vivait ses crises, elle avait continuellement le besoin d'appeler des gens, elle avait besoin continuellement de parler puis d'évacuer. Puis des fois, ça devenait lourd pour ceux qui l'écoutaient. Mais c'est comme si moi, avec le recul, j'ai vu dans tout ça comme il y a comme un vide, un gouffre sans fin qui est présent chez ces gens-là. Puis il y a des questions qu'on doit se poser en tant que société. Est-ce qu'on passe à côté de quelque chose? Et en tout cas, c'est à réfléchir.
Est-ce qu'on échappe ou...
Mm-hmm. Ah ben, tu viens de m'en apprendre une bonne, Jocelyn. Je savais pas ça, là, que c'est... T'avais vécu.
Ouais, oui, j'ai vécu ça. J'avais exactement 19 ans à l'époque.
Oh, c'est jeune, ça.
Elle en avait 18.
Ah là là, c'est dur pour encaisser ça.
Deux semaines après notre séparation.
Voilà,
c'est ça.
C'est jeune pour encaisser un drame comme ça.
Ouais, puis je te dirais, c'est drôle, hein, parce que en fait... son père, ses parents, il m'aimait beaucoup. Son père jouait de la guitare. Moi, je suis guitariste, c'est bon. Mm-hmm. Et sa sœur, à elle, était la blonde d'un de mes amis. Enfin, bref. Lorsque Sylvie s'est enlevée la vie, moi, je me suis tellement culpabilisé.
Mm-hmm.
Ouais. Puis, j'ai coupé les ponts avec la famille au complet. Et il y a quelques années de cela... Je suis en spectacle et il y a quelqu'un au fond de la salle qui rit plus fort que tout le monde puis qui applaudit plus fort que tout le monde. Mais avec les projecteurs, j'arrive pas à distinguer comme il faut. Mais à la fin du spectacle, elle vient me voir et c'était Manon, la sœur de Sylvie.
Oh.
Et ouais, c'est ça. On a eu une bonne conversation. Puis que moi, je savais pas, c'est que Sylvie, en fait, depuis qu'elle avait 11 ans qu'elle parlait de s'enlever la vie. Depuis qu'elle avait 11 ans qu'elle voulait s'enlever la vie, moi, ma relation avait été trop brève. J'ai pas été témoin de ça. Donc, mais la famille m'en ont jamais voulu, puis m'ont comme jamais culpabilisé, en fait. Ils m'ont pas tenu responsable du décès de leur fille parce que elle en parlait depuis très longtemps du suicide. Mm. Et moi, j'ai probablement été la goutte qui a fait déborder le vase, en fait, là.
Mm. Ouais, il y a un point de bascule à un moment donné qui arrive, qui fait que ces gens-là sont plus capables, tout simplement plus capables de supporter la douleur, puis ce vide à l'intérieur.
Ce mal de vivre.
Ce mal de vivre, exactement.
Ouf! Puis pour moi, c'est tellement incompréhensible parce que même dans les gros problèmes de la vie, je vais trouver le moyen de rire, je vais trouver le moyen de m'amuser, de rencontrer des gens, puis d'avoir une vie. De toute façon, ça règle pas le problème de pleurer, ça règle pas le problème d'avoir de la peine, et ça règle aucun problème, hein. Mm-hmm. Puis même je crois à la magie du sourire et du rire et de la bonne humeur, j'y crois fortement à mon fond intérieur. Et c'est comme ça. Hey Eric, écoute, c'est tout le temps qu'on a. Une chance qu'on n'a rien qu'un sujet. Si on avait eu trois, hein, quand même. On n'aurait pas fini.
Mm-hmm, c'est ça.
Fait que je te remercie bien gros, Eric, pour ton intervention. Encore une fois, très, très, très intéressante. Puis bon, ben là, on sait pourquoi ça nous a touché tous les deux, là, un peu.
Mm-hmm.
Mais bon, hein, on a vécu quelque chose de très intense, mon ami Eric.
Tout à fait.
On se donne rendez-vous demain, hein, pour un autre sujet aussi trépidant.
Absolument.
All right. Merci beaucoup, Eric.
Au revoir.
À demain, mon ami. Bye-bye.